Radio Classique, les spécialistes.
Pratiquement 7h40 sur Radio Classique, une visite hautement symbolique aujourd'hui pour le chef de l'État. En ce lundi 8 mai, Emmanuel Macron se rendra à l'ancienne prison de Montluc à Lyon, une ancienne prison où de très nombreux résistants furent internés et torturés pendant la Seconde Guerre mondiale. Emmanuel Macron à Montluc pour rendre hommage à l'armée des ombres et notamment à Jean Moulin, arrêté en juin 1943 à Lyon, quelques semaines après avoir unifié la résistance française. Bonjour Fabrice Grenard.
Bonjour.
Historien de la Seconde Guerre mondiale, vous publiez chez Plon Jean Moulin, le héros oublié. J'imagine que vous êtes sensible à ce déplacement du président de la République à l'ancienne prison de Montluc, devenue un mémorial national d'ailleurs.
Oui, c'est très important puisque nous allons fêter effectivement les 80 ans, à la fois de la création du Conseil national de la Résistance, dont Jean Moulin était le premier président, et de son arrestation à oui. Caluire quelques jours plus tard et de sa mort. Et Jean Moulin a vraiment été l'un des très grands acteurs de la Résistance française, cette résistance qui a permis d'arrimer la France dans le camp des vainqueurs en 1945.
Jean Moulin, le héros oublié, c'est le titre de votre ouvrage paru chez Plon, consacré donc à l'ancien préfet d'Eure-et-Loir. Héros oublié, vous dites que l'on connaît mieux le Jean Moulin post-mortem que le Jean Moulin vivant finalement.
Oui, effectivement, parce que je dirais que tout le monde connaît le nom de Jean Moulin. Évidemment, il y a de très nombreuses rues, de très nombreux collèges. Si l'on interroge les gens, on leur demande de citer des résistances. C'est le nom de Jean Moulin qui arrive souvent en second après De Gaulle. Maintenant, quand on pose la question « et qu'est-ce qu'il a fait Jean Moulin ?», là, on voit que c'est beaucoup plus compliqué. Donc effectivement, lorsqu'on pense à Jean Moulin, on pense à Malraux, on pense au Panthéon, on ne pense pas forcément à son rôle d'unificateur de la Résistance, à sa présidence du Conseil national de la Résistance.
Alors Fabrice Grenard, votre livre débute par, et selon vos mots, par un face-à-face insoutenable entre Moulin et Klaus Barbie, le chef de la Gestapo à Lyon. Nous sommes à la fin du mois de juin 1943. Barbie a arrêté Moulin, il est persuadé que Moulin est Max, celui qui dirige la Résistance de l'intérieur, et il veut absolument le faire avouer.
Oui, donc évidemment, il le torture.
Ouais.
Pour Barbie, le chef de la Gestapo lyonnaise, Moulin, c'est sa plus belle prise.
Ouais.
C'est le chef de la Résistance en France, celui qui sait tout sur la Résistance. Donc le faire parler permettrait à Barbie, en réalité, de pouvoir démanteler la Résistance française. Et évidemment, en ne parlant pas, Jean Moulin va quelque part sauver aussi la Résistance.
Il y a cette scène incroyable où Jean Moulin demande une feuille et un crayon. Barbie pense qu'il va lui donner des noms.
Oui, oui. Et en fait, Jean Moulin est aussi un artiste. C'est quelqu'un qui peint, qui fait des dessins. Et Barbie pense que ça y est, il a réussi à faire craquer Jean Moulin. Alors qu'en réalité, Jean Moulin, qui est tout juste conscient, mais trouve la force de caricaturer son bourreau. Et c'est une scène extraordinaire parce que les choses se renversent. Le bourreau devient humilié et la personne torturée devient celui qui mène le jeu.
Alors, finalement, Fabrice Grenard, ce que vous dites dans ce livre, c'est vrai que c'est hautement symbolique, en ne cédant pas à la torture, en ne donnant aucun nom, quelque part Jean Moulin réhabilite presque notre France qui était celle de Vichy deux ans auparavant, enfin qui se met en place à ce moment-là.
Oui, d'abord la France de 40, le traumatisme.
Bien sûr.
Le traumatisme de la défaite, ensuite le traumatisme de l'occupation allemande, et puis cette tache noire de notre histoire qui est la collaboration. Effectivement, Jean Moulin, par son action, a permis de, quelque part, laver tout cela.
C'est la deuxième fois que Jean Moulin était torturé et battu d'ailleurs par les Allemands, parce que juin 43, il y a eu juin 40 également.
Oui, dans un contexte différent,
Bien sûr. Il était
alors préfet de Chartres. Et lorsque les Allemands arrivent à Chartres le 17 juin 1940, ils lui demandent de signer un papier déshonorant, imputant un massacre de femmes et d'enfants à des soldats africains de l'armée française, alors qu'en fait c'était de simples victimes d'un bombardement allemand. Jean Moulin avait refusé, comme préfet, de signer ce papier, mais par peur de craquer sous les violences allemandes, il avait fait le choix de tenter de se suicider.
C'est pour cela qu'il a cette fameuse écharpe autour du cou.
C'est pour ça qu'il aura d'abord une cicatrice
au cours
du cou, qui le gênera d'ailleurs, y compris parfois pour parler, pour manger pendant un certain temps. Et il utilisera effectivement cet outil vestimentaire de l'écharpe pour cacher cette cicatrice, qui est quelque chose qui permet de le repérer facilement.
Donc, ce qui est très intéressant également dans ce livre, Fabrice Grenard, c'est que on découvre aussi qu'il a été, il est resté préfet quelques mois pendant Vichy, avec effectivement l'application d'un certain nombre de décrets décidés par Vichy, notamment l'interdiction de certaines professions aux Français juifs. voilà, vous ne cachez rien finalement. Il y a cet aspect des choses aussi de Jean Moulin.
Bien sûr, c'est un livre d'histoire. Hein, c'est
oui,
pas
bien sûr.
Voilà, et effectivement, l'histoire consiste à tout dire. Et l'histoire de cette période est particulièrement complexe, particulièrement ambivalente. De fait, Jean Moulin n'est pas un des pionniers de la résistance. Ces gens qui basculent dès l'été ou l'automne 1940.
Il rentre en mai 41 à peu près dans la résistance.
Alors
c'est ça
il est révoqué. De son poste de préfet en novembre 40, et il fait le choix de la résistance, du coup, entre novembre 40 et le printemps 41, effectivement.
Rencontre avec Henri Freinet en mai 41. Oui. Ce qui est assez incroyable, c'est que ça sera aussi l'un de ses plus grands adversaires après la mort de Jean Moulin, alors qu'il commence finalement ses premiers contacts avec lui.
Bien sûr, mais c'est aussi l'histoire de la résistance. Hein. Les résistants sont des gens qui se battent pour une cause commune, mais ce sont aussi des histoires de personnes, des histoires d'égo.
Il y a des guerres d'égo terribles, hein, d'ailleurs.
Des guerres d'égo terribles, quelques divergences idéologiques aussi sur ce qu'il faut faire une fois la guerre terminée. Et c'est une histoire, là encore, passionnante, parce que, évidemment, les résistants, malgré tout, vont réussir à surmonter toutes ces difficultés, toutes ces résistances, pour parvenir à s'unir grâce aux efforts de Jean Moulin.
Alors, il y a cette rencontre le 25 octobre 1941 avec De Gaulle. C'est vrai que c'est pas le même monde, De Gaulle et Moulin. C'est pas le même milieu, c'est pas les mêmes idées, mais ça va le faire, en quelque sorte.
Oui, oui, oui. Alors, ce sont deux hommes d'État, en réalité, qui comprennent qu'ils ont besoin l'un de l'autre. De Gaulle a besoin d'un représentant auprès de la résistance intérieure, qu'il connaît mal, qui se développe de façon autonome. Et Moulin comprend à ce moment-là que De Gaulle est le plus à même d'incarner la France qui continue la lutte auprès des alliés. Donc effectivement, il y a une rencontre entre deux hommes qui décident de travailler main dans la main.
Et vous dites que De Gaulle lui doit beaucoup.
Ah, mais De Gaulle lui doit...
À peu près tout, d'ailleurs.
Énormément. Il y a même une scène que je raconte. On est en mars 1943. C'est le second séjour de Jean Moulin à Londres. De Gaulle est très fragilisé par le conflit qu'il oppose avec Giraud. Il a peur même de perdre la partie. Et c'est Jean Moulin, à ce moment-là, qui lui remonte le moral, qui le remet en selle et qui insiste pour unir cette résistance autour de lui afin de conforter sa légitimité.
Il y a la fidélité à De Gaulle, mais il y a aussi les critiques vis-à-vis de Londres. Moulin dit justement, quand il est en France, que ça ne va pas assez vite, qu'il y a une certaine passivité du côté de Londres. Il y a même des côtés où on le sent presque désespéré.
Et oui, encore une fois, cette histoire est compliquée. C'est la résistance intérieure, la résistance extérieure, la France libre se sont développées de façon autonome. Certains chefs de la résistance intérieure considèrent au départ qu'ils sont aussi légitimes que De Gaulle à incarner la résistance dans son ensemble. Donc encore une fois, il faut tenir compte de ces difficultés, de ces personnalités. Londres tient les cordons de la bourse aussi.
Oui.
Mais du côté de la résistance intérieure, on en demande bien sûr toujours plus. Et lorsqu'on n'a pas ce qu'on obtient, on accuse Londres de ne pas donner assez. Donc c'est une histoire d'unité, mais aussi de querelles, de division, bien sûr.
Et j'en reviens à la première scène de votre livre, donc ces scènes de torture entre Klaus Barbie, donc qui torture Jean Moulin, qui ne parle pas. Finalement, c'est une défaite pour Barbie, parce qu'il n'a aucun nom, et en plus, finalement, il est accusé par la hiérarchie allemande d'avoir loupé ce qu'il fallait surtout pas louper, et il n'aura aucune victoire de ce face-à-face avec Jean Moulin. Jean Moulin qui va mourir quelques jours plus tard entre Paris et Berlin dans un train.
Tout à fait. Jean Moulin était le prisonnier le plus important de Barbie. Barbie espérait le faire parler pour certainement accélérer sa carrière, accéder à de plus hautes fonctions, et c'est l'inverse qui va se passer, parce que Jean Moulin ne parle pas, parce que Barbie le torturera trop, en réalité, va trop l'affaiblir. Il sera même sanctionné par sa hiérarchie pour n'avoir pas obtenu ce qu'il cherchait.
Jean Moulin, le héros oublié, c'est signé Fabrice Grenard aux éditions Plomb. Merci beaucoup d'avoir été ce matin mon invité. Et je vous rappelle que dans quelques heures, Emmanuel Macron rendra hommage non seulement à Jean Moulin, mais à tous les résistants qui ont séjourné à Montluc. Je pense, évidemment, vous êtes historien, j'ai fait des études d'histoire, à Marc Bloch qui a séjourné à Montluc et à qui on doit ce livre magnifique qui s'appelle L'étrange défaite. Merci beaucoup, Fabrice Grenard, d'avoir été ce matin mon invité. Il est 7h49 sur l'antenne de Radio Classique. Dans un instant, le journal imprévisible de M. Marc.